Amy Elliott Tune. 15 septembre 2010. Journal. J'écris de quelque part dans le coin sud-ouest de la Pennsylvanie. Un motel sur la nationale. Notre chambre donne sur le parking. Et si je regarde derrière les rideaux beige, je vois des gens qui s'affairent sous les lumières fluorescentes. C'est le genre d'endroit où les gens s'affairent. Je suis en état de choc affectif de nouveau. Trop de choses se sont produites, trop vite. Et maintenant je suis dans le sud-ouest de la Pennsylvanie. Et mon mari savoure un sommeil provoquant au milieu des petits paquets de chips et de bonbons qu'il a achetés au distributeur au bout du couloir. Il est en colère contre moi parce que je ne joue pas le jeu, dit-il. Je pensais que je donnais le change de façon convaincante. Hourra ! Une nouvelle aventure ! Mais il faut croire que non. Maintenant que j'y repense, c'était comme si on attendait qu'il se passe quelque chose. Comme si on se tenait sous une cloche géante, protégée du son et du vent, Nick et moi, puis que la cloche était tombée. Et il y avait quelque chose à faire. Il y a 2 semaines, nous étions dans notre état habituel de chômeur, partiellement vêtus, morts d'ennui. Nous nous apprêtions à prendre en silence un petit déjeuner qui s'étirait par la lecture intégrale du journal. Maintenant, nous lisions même les petites annonces. Le portable de Nick sonne à 10 heures, et je devine à sa voix que c'est Go. Il a la voix alerte, juvénile, comme toujours quand il lui parle. Quand il me parlait aussi, avant. Il va dans la chambre et ferme la porte, me laissant avec entre les mains 2 œufs bénédictes tremblants dans leur assiette. Je pose le sien sur la table et m'installe en face, me demandant si je dois l'attendre pour manger. Si c'était moi, me dis-je, je ressortirais pour lui dire de commencer à manger, ou je lèverais un doigt, juste une minute. J'aurais conscience de l'existence de l'autre personne, mon épouse, toute seule dans la cuisine, avec des assiettes d'œufs. Je m'en veux d'avoir pensé ça, parce que bien vite, j'entends des murmures inquiets, des exclamations anxieuses et des mots de réconfort derrière la porte, et je commence à me demander si Go a des problèmes avec un garçon de leur région. Go traverse beaucoup de ruptures. Même lorsque c'est à son initiative, Nick doit lui tenir la main et la rassurer. Alors j'ai mon expression qui signifie « pauvre Go ». Lorsque Nick ressort, les œufs se sont figés sur l'assiette. Mais quand je le vois, je sais que ce n'est pas seulement un problème lié à Go. « Ma mère, » commence-t-il en s'asseyant. « Merde. Ma mère a un cancer. Stade 4. Et ça s'est répandu dans le foie et les os. Ce qui n'est pas bon, ce qui est... » Il met son visage entre ses mains. Je m'approche et l'enlace. Lorsqu'il relève la tête, il a les yeux secs, calmes. Je n'ai jamais vu mon mari pleurer. C'est trop pour Go, en plus de l'Alzheimer de mon père. Alzheimer ? Alzheimer, depuis quand ? Eh bien, un moment. Au début, il pensait que c'était une espèce de sénilité précoce, mais c'est bien plus que ça, c'est pire. Je me dis immédiatement qu'il y a chez nous quelque chose qui ne va pas. Quelque chose peut-être d'irréparable si mon mari ne pense pas à m'annoncer une nouvelle pareille. Parfois, j'ai l'impression que c'est un petit jeu pour lui, qu'il participe à une espèce de concours tacite d'impénétrabilité. Pourquoi tu ne m'as rien dit ? Mon père n'est pas quelqu'un dont j'aime parler. Mais quand même ! Amy, s'il te plaît. Il fait le regard qu'il fait toujours quand j'exagère. Il semble tellement certain que j'exagère que j'en viens à me demander si c'est le cas. Mais maintenant, Go dit que ma mère va avoir besoin de chimio. Elle va être malade, très malade. Elle va avoir besoin d'aide. Est-ce qu'il faut qu'on lui cherche une aide à domicile ? Une infirmière ? Son assurance ne couvre pas ce genre de truc. Il a les yeux fixés sur moi, les bras croisés, et je sais de quoi il me défie. Il me défie de proposer de payer. Or, nous ne pouvons pas payer, parce que j'ai donné mon argent à mes parents. Ok. Dans ce cas, chérie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous nous tenons face à face. C'est une épreuve de force. Comme si nous étions en pleine dispute, sans que j'en aie été informée. J'avance la main pour le toucher, et il se contente de la regarder sans expression. « Il faut qu'on rentre s'installer là-bas, » dit-il avec un regard mauvais, les yeux écarquillés. Il fait un geste avec sa main dans l'air, comme pour se débarrasser de quelque chose de gluant. « Ça va prendre un an ou deux. Mais nous ferons notre devoir. On n'a pas de boulot, on n'a pas d'argent, et il n'y a rien qui nous retient ici. Même toi, tu es forcé de le reconnaître. Même moi ?» Comme si j'étais déjà en train de rechigner. Je ravale une bouffée de colère. C'est ce qu'on va faire. On va faire notre devoir. On va aider mes parents, pour une fois. Bien sûr, c'est notre devoir. Et bien sûr, s'il ne m'avait pas expliqué le problème comme si j'étais son ennemi, c'est ce que j'aurais dit. Mais quand il est sorti de la chambre, il m'a immédiatement traité comme si j'étais un problème que l'on devait régler. La voix cruelle qu'il faut écraser. Mon mari est l'homme le plus loyal de la terre, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'ai vu ses yeux s'assombrir d'un ton, comme lorsqu'il se sent trahi par un ami, même un très cher, un très vieil ami. Après quoi le nom de l'ami n'est plus jamais prononcé. Il m'a regardé comme si j'étais une chose dont on pouvait se débarrasser en cas de besoin. Il m'a complètement glacé ce regard. Et ainsi, c'est décidé, aussi vite que ça, sans plus de discussion. Nous quittons New York. Nous allons dans le Missouri. Dans une maison à côté de la rivière Missouri où nous allons habiter. C'est surréaliste. Et je ne suis pas du genre à employer ce mot à tort et à travers. Je sais que ça va aller. C'est juste que c'est si éloigné de ce que je m'étais représenté. Quand je me représentais ma vie, ça ne veut pas dire que c'est mal, mais si vous m'aviez donné 1 million de chances de deviner où la vie allait me mener, je n'aurais pas deviné ça. Je trouve ça inquiétant. Charger le camion de déménagement est une mini-tragédie. Nick, déterminé et coupable, la bouche serrée, qui œuvre en refusant de me regarder. Le camion reste en double fil pendant des heures, bloquant la circulation dans notre petite rue. Feu de détresse allumé. Danger, danger, danger. Tandis que Nick monte et descend les escaliers, telle une chaîne à un seul homme, emportant des cartons de livres, des cartons de vaisselle, des chaises, des petites tables. Nous emportons notre canapé vintage, notre vieux Chesterfield énorme, que papa a surnommé notre animal de compagnie, tellement nous en sommes fous. Ce sera la dernière chose que nous chargerons, à deux, mal à l'aise, en sueur. Faire descendre l'escalier à ce meuble massif. Attends, j'ai besoin d'une pause. Un peu plus à droite. Attends, tu vas trop vite. Attention, mes doigts, mes doigts. Devrait suffire à souder notre équipe, qui en a grand besoin. Après le canapé, nous irons acheter de quoi déjeuner au deli du coin. Des bagels garnis, que nous mangerons sur la route, et des sodas frais. Nick me laisse garder le canapé, mais nos autres meubles volumineux restent. Un ami de Nick héritera du lit. Ce type passera plus tard dans notre maison vide, où il ne reste que la poussière et des fils électriques, et prendra notre lit. Puis, il vivra sa vie de New-Yorkais dans notre lit de New-Yorkais. Il mangera chinois à 2 heures du matin, et il enfilera paresseusement des capotes pour baiser des filles saoules avec les lèvres en rebord de peau de chambre qui bossent dans les relations publiques. Notre maison, quant à elle, sera reprise par un couple bruyant d'avocats qui se réjouissent éhontément, insolemment, de leur super affaire « Je les déteste ». Je porte un carton à chaque fois que Nick en descend 4. J'avance lentement, je traîne les pieds comme si mes os me faisaient mal. Une fragilité fiévreuse descend sur moi. Tout me fait mal. Nick me dépasse en hâte à chaque aller-retour et me jette des regards réprobateurs. « Ça va ?» demande-t-il d'un ton cassant, Et il continue sans attendre la réponse, me laissant bouche bée comme un personnage de cartoon avec un trou noir à la place de la bouche. Non, ça ne va pas. Ça va aller, mais là, ça ne va pas. Je veux que mon mari me prenne dans ses bras, qu'il me console, qu'il me cajole juste un petit peu. Juste une petite seconde. À l'arrière du camion, il manipule les cartons. Nick tire gloire de ses dons d'organisation. C'est lui qui a chargé le lave-vaisselle. Lui qui faisait nos valises pour les vacances. Mais au bout de la troisième heure, il devient clair que nous avons vendu ou donné trop d'affaires. Le camion n'est qu'à moitié plein. Cela me donne mon unique satisfaction de la journée. Cette satisfaction chaude et méchante dans le ventre, comme une pointe de mercure. Très bien, je me dis, très bien. On peut prendre le lit si tu y tiens vraiment, dit Nick regardant la rue derrière moi. On a la place. Non ? Tu l'as promis à Wally ? Il faut le donner à Wally, je réponds bien sagement. J'ai eu tort. Dis-le simplement. J'ai eu tort. Je suis désolée, prenons le lit. Il faut que tu aies ton vieux lit rassurant dans ce nouvel endroit. Souris-moi, sois gentil avec moi. Aujourd'hui, sois gentil avec moi. Nick laisse échapper un soupir. Ok, si c'est ce que tu veux. Amy, c'est ce que tu veux ? Il est appuyé, un peu essoufflé, contre une pile de cartons. Sur celui du dessus, il y a écrit au marqueur « Vêtements d'hiver, Amy ». C'est la dernière fois que j'entends parler du lit, Amy. Parce que je te le propose, là. Je serais heureux de charger le lit pour toi. Quel grand seigneur, je fais, dans un souffle presque inaudible. Comme presque toujours quand je lui réponds. Une bouffée de parfum d'un atomiseur fétide. Je suis lâche. Je n'aime pas les affrontements. Je ramasse un carton et me dirige vers le camion. « Qu'est-ce que t'as dit ?» Je secoue la tête en le regardant. Je ne veux pas qu'il me voie pleurer, parce que ça ne ferait qu'aggraver sa colère. 10 minutes plus tard, c'est un vacarme dans l'escalier. Bang, bang, bang. Nick traîne notre canapé au bas des marches, tout seul. Je ne peux même pas regarder derrière moi pendant que nous quittons New York, parce que le camion n'a pas de vitre arrière. Dans le rétroviseur, je suis la ligne d'horizon. La ligne d'horizon qui s'estompe peu à peu. N'est-ce pas ainsi qu'ils en parlent dans les romans victoriens où l'héroïne maudite est forcée de quitter sa famille ? Mais je ne vois pas les plus beaux bâtiments. Le Chrysler Building, l'Empire State, le Flatiron. Ils n'apparaissent jamais dans ce petit rectangle réfléchissant. Mes parents sont passés la nuit d'avant. Ils nous ont offert la pendule à coucou de la famille, que j'adorais quand j'étais petite. Et tous trois, nous avons pleuré et nous sommes serrés dans les bras tandis que Nick remuait ses mains dans ses poches et promettait de prendre soin de moi. Il a promis de prendre soin de moi, et pourtant j'ai peur. J'ai l'impression que quelque chose va mal, très mal, et que ça va encore empirer. Je n'ai pas le sentiment d'être la femme de Nick. Je n'ai même pas l'impression d'être quelqu'un. Je suis quelque chose qu'on peut charger et décharger, comme un canapé ou une horloge à coucou. Un objet, et même pas un objet utile. Je suis une chose qu'on peut balancer à la casse, jeter dans la rivière si nécessaire. Je ne sens plus ma propre réalité. J'ai l'impression que je pourrais disparaître.